Bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent sur les ondes de RCF Poitou. Soyez bienvenus pour suivre cette deuxième émission consacrée à l'impact des pesticides sur la santé. Une deuxième émission construite à partir des questions qui émanent de la salle, avec de nombreuses personnes dans le public. Alors nous avons les mêmes invités que lors de la première émission, Serge Grimaud qui représente la Chambre de l'agriculture de la Vienne. Bonjour Serge Grimaud.
Bonjour.
Julien Giraud, directeur de l'Observatoire régional de la santé Poitou-Charentes, bonjour.
Bonjour.
Alain Gazeau, qui est directeur d'APNO Poitou-Charentes, une association qui mesure la présence des pesticides, notamment, hein, pas seulement des pesticides dans l'air en Poitou-Charentes. Nous en rejoignons pour cette deuxième émission Laurence Marcillot. Bonjour Laurence Marcillot, conseillère régionale Poitou-Charentes. À ses côtés, Guillaume Rion, président régional d'Agrobio, un autre représentant du monde agricole, bonjour. Et enfin, Jackie Ferrand, bonjour Jackie Ferrand. Et vous êtes père d'un viticulteur qui a été victime des pesticides sur le département de la Charente et vous nous livrerez votre témoignage. Alors, tout d'abord, Émilie Laurent, que j'ai oublié, bonjour Émilie Laurent,
Bonjour Monsieur Lassalle.
qui apportera le témoignage d'une élue pour nous dire comment les collectivités locales ont pu mettre en place également des mesures pour réduire leur usage de pesticides. Et d'ailleurs, je vais commencer par vous, puisque dans la première émission, on s'est surtout intéressé aux usages agricoles. On a vu que les collectivités et les particuliers avaient aussi une part dans l'usage des pesticides. Alors, est-ce que les collectivités se mobilisent, peut-être à travers l'exemple de votre mandat à Poitiers, où vous avez pu mettre en place une politique de réduction de l'usage de ces pesticides?
En effet, j'étais à l'époque adjointe chargée de l'environnement de 1995 à 2004, et très précisément le 27 janvier de l'an 2000, par un vote solennel de l'équipe municipale, eh bien, nous avons déclenché sur Poitiers une véritable révolution, c'est-à-dire que nous avons décidé de gérer totalement différemment nos espaces verts en définissant 7 niveaux de gestion. D'un niveau encore un peu utilisateur jusqu'à un niveau complètement non utilisateur. Mais le changement était basé non seulement sur la volonté d'aller vers zéro pesticide, ce qui est presque le cas aujourd'hui, mais également de réduire les interventions mécaniques pour économiser les carburants. Alors, du coup, la ville de Poitiers s'est engagée grâce à la volonté, je dirais, politique de quelques élus, dont moi, mais surtout de l'équipe des espaces verts, en particulier des cadres, dont une est parmi nous, Catherine Doré, dans la salle. Elle fait partie de ces pionniers des espaces verts. Actuellement, nous sommes un programme personne de la région Poitou-Charentes, avec un niveau 3 papillons. Nous ne pouvons pas aller jusqu'au maximum, parce qu'il y a un élément bloquant, ce sont les footballeurs. Les terrains de football ont du plantain et du trèfle blanc, et pour éradiquer, pour le moment, on n'a pas trouvé d'autre solution que faire des petits traitements. Donc, à cause de ce contre-exemple, on n'arrive pas à la perfection, mais peut-être qu'un jour, il y aura une solution.
C'est un peu synthétique, peut-être. Laurence Marcillot, Marie Legras a parlé de Tersen, donc c'est un programme soutenu par la région qui attribue donc ces notes, ces papillons aux communes qui ont ce type de démarche.
Il y a quand même une problématique qu'on a pas encore évoquée ce matin, et c'est un peu la cible de Tersen, c'est la problématique de l'eau, puisque c'est quand même l'eau qui récipiendaire de l'intégralité de ces pesticides qui sont épargnés, quels que soient les usages qui sont pratiqués. Alors, moi, quand on parle de saleté, je me demande qui est plus sale, est-ce que c'est un champ avec quelques végétaux agrandis, ou est-ce que c'est une eau qui contient des pesticides? Et c'est vrai que l'objectif de la région, c'est bien d'arriver à avoir une meilleure qualité d'eau. On est régulièrement condamné par l'Europe par rapport aux teneurs en pesticides, d'où la charte Tersen, qui est là sur des usages non agricoles, puisque l'objectif, c'est que dans les communes, on arrête l'utilisation des pesticides. Comme disait Marie, ça induit, il faut absolument qu'il y ait les différents services techniques s'impliquent, mais aussi les citoyens, parce que souvent, il y a des mauvaises herbes devant chez moi. Alors là aussi, hein, le vocabulaire mauvaises herbes, c'est souvent la première réaction qu'on a. Et moi, je garde espoir parce que j'avais un témoignage de maire qui disait, la première année, les gens venaient râler parce qu'ils disaient, vous n'avez pas désherbé devant chez moi. Et au bout de 4 ans, il y avait des gens qui venaient râler en disant, mais pourquoi vous avez désherbé là? Il n'y en a pas besoin. Donc, je pense que ça fait partie, quand on fait de la communication, qu'on arrive petit à petit à faire passer le message, on peut avoir des évolutions. Et puis nous, on intervient aussi sur un deuxième volet qui concerne le monde agricole, c'est le programme ressources.
où là on est vraiment sur la protection de la ressource en eau, où on intervient sur les aires d'alimentation de captage en essayant de faire évoluer les pratiques agricoles. On connaît les exemples, hein, alors tout le monde cite Munich, mais en France on connaît Vittel, ça a été quand même les précurseurs, ils ont mis en place des plans d'évolution des pratiques et puis tout agriculteur bio pour pouvoir préserver la ressource de Vittel. Donc bien évidemment on ne peut pas du jour au lendemain aller vers cela, mais nous au niveau régional, l'objectif du programme Ressources Plus qui va se développer dans les années à venir, c'est de mettre en place des périmètres d'action qui soient pertinents et qui amènent à des résultats. L'objectif, c'est vraiment de diminuer la quantité de pesticides dans la ressource en eau, parce que c'est vraiment un des problèmes. Et là, tous les citoyens sont confrontés et consomment des pesticides par le biais de l'eau. Et avec les effets cocktails qu'on a évoqués, il y a toutes les incertitudes qu'on a, moi je ne sais même pas comment maintenant on peut encore se poser la question de savoir s'il faut faire évoluer les choses.
Le responsable a évoqué des résistances culturelles. Est-ce que vous avez été confronté à ce type de résistance de la population de Poitiers? Vous avez parlé des terrains de fonte, mais on sait qu'il y a aussi beaucoup de résistances concernant les cimetières.
J'avais parlé des cimetières parce que c'est l'époque. C'est un haut lieu de résistance aux cimetières à cause des visiteurs, bien sûr, hein, qui ne supportent absolument rien, qui dépassent. Eh bien, dans les cimetières, nous pratiquons la gestion sans pesticides actuellement, hein, par d'autres systèmes. Mais il n'y a pas que les cimetières, ce que décrit Laurent, c'est parfaitement exact. C'est-à-dire, la peur de la nature, vous la trouvez partout. Moi, j'ai vu à Poitiers un vieux monsieur qui se permettait, avec un arroseur dorsal bourré de pesticides, de traiter les espaces municipaux, parce qu'il y avait quelques pissenlits. Il faut que c'est quand même un peu gros, hein, alors. Voilà. Non, mais quand même, ça s'est bien calmé sur Poitiers et je pense qu'il y a une adhésion assez massive. Mais c'est un travail de pédagogie, d'éducation permanente.
Alors, lors de la première émission, nous avons évoqué la mesure des pesticides dans l'air. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la présence des pesticides dans les autres milieux, notamment l'eau ou éventuellement même sur les produits de consommation. Je ne sais pas si on peut faire ce genre de mesure. Est-ce qu'au niveau de l'ORS, vous avez quelques données à ce niveau-là sur la présence des pesticides, notamment dans l'eau, voire sur les produits de consommation?
Sur les produits de consommation, on a réalisé un document qui est disponible sur Internet sur les connaissances des teneurs en pesticides des aliments. Les aliments qui sont probablement le mode d'exposition aux pesticides le plus important pour les non-professionnels. Donc là, on décrit dans ce document la nature et les résultats des différents contrôles qui sont menés par la DGAL sur les produits agricoles et d'origine végétaux, par la DGCCRF, la directe, par la communauté européenne. Et puis, on présente aussi les résultats d'une grande étude qui est l'étude alimentation totale et qui, sur un échantillon, c'est la première étude de cette envergure-là, montre que, normalement, de toute façon, on retrouve des pesticides dans la quasi-totalité des produits alimentaires à des dosages qui sont très variés. Selon les limites de quantification ou de détection des produits, c'est très varié. Mais quand on fait des mesures dans les aliments, on retrouve de manière quasi systématique des pesticides. De la majeure partie à des teneurs qui respectent la réglementation, hein, il faut quand même le souligner. Les infractions sont très très minoritaires, mais les aliments présentent de toute façon des pesticides.
Alors, bien sûr, je ne sais pas si vous avez, vous mesurez l'air, mais peut-être que vous êtes en contact avec d'autres organismes qui mesurent les pesticides dans d'autres lieux, dans nos environnements.
On peut faire l'analogie avec ce qui est mesuré dans l'eau. Donc dans l'eau, bien sûr, je confirme ce que disait Laurence, on en retrouve dans l'eau, évidemment, mais on va surtout retrouver des pesticides, donc ce ne sont pas forcément les mêmes molécules qu'on va retrouver dans l'air, parce que ce sont celles qui ne seront pas volatiles, qui vont aller dans la terre et puis qu'on va retrouver dans l'eau. Donc évidemment, on retrouve le fameux glyphosate, hein, le Roundup, forcément. Donc là, ça va être plutôt des herbicides, et dans l'air, autour des vignes, c'est plutôt les fongicides et les insecticides qui sont plus volatiles. Donc, mais évidemment, là je n'ai pas les chiffres dans l'eau, mais forcément, les agences de bassin se préoccupent de cette problématique. Donc, je confirme qu'il y en a dans l'eau.
Alors, je vous propose maintenant de passer aux questions qui émanent de la salle. Je peux donner la parole à l'un d'entre vous, mais j'invite chacun à réagir sur les propos qui sont tenus par les uns ou par les autres. Alors, le premier volet de ces questions concerne le domaine sanitaire, l'impact de la santé sur à la fois les utilisateurs, donc le monde agricole, donc ceux qui travaillent dans le monde agricole, et puis également sur le reste de la population. Je vous propose de débuter cette partie par un témoignage. Jackie Ferrand, qui est père d'un viticulteur qui a été victime de ces pesticides sur le département de la Charente. Pouvez-vous nous apporter ce témoignage, Jackie Ferrand?
Oui, mon fils était viticulteur entre Jarnac et Chaponzac, c'est-à-dire un peu cas du pays du Cognac. Il est décédé le 11 décembre 2011, atteint par un cancer de la vessie métastasé osseux d'emblée. Il a eu cette maladie pendant 18 mois. Il est décédé dans des souffrances atroces. Voilà, donc il a touché des pesticides. On habite au milieu des vignes, donc on est en contact avec des pesticides de tout le temps. Il se trouve que il avait une leucémie aiguë lymphoblastique enfant et qui était qui il avait la dernière chimio remontait à 28 ans. Donc il n'y a pas de relation entre les deux. Par contre, nous avons donné 30 ans de facture à la MSA qu'il avait transmise au docteur Benbry, qui est un toxicologue connu à Poitiers. Et chaque année, il a trouvé une facture dans laquelle il y avait un produit cancérigène. Donc on peut penser que ces deux maladies, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, ont quand même en commun, c'est que c'est lié à l'utilisation des pesticides.
C'est un lien que vous faites ou qui a été un lien probable ou un lien qui a été établi?
C'est pas un lien probable, on en est encore à la suspicion, on ne sait pas trop, mais il est certain que vivant au cœur du vignoble, il était né en 70, donc au moment où l'utilisation des pesticides explose. Et moi, je lui avais posé cette question parce que j'ai une formation de technicien viticole et j'ai été expérimentateur à l'interprofession du cognac. Pourquoi pas moi? Qui utilisait des produits qui n'étaient pas encore autorisés. Il m'a dit oui, mais vous, vous étiez déjà bâti. Lui, il naissait en même temps qu'exploser ces produits. Et voilà.
Serge Dumont, donc, à l'heure de votre présentation, vous nous avez montré l'évolution de l'usage de ces produits depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que à la Chambre d'agriculture, vous êtes également intéressé sur l'impact sanitaire que pouvaient avoir ces produits sur la population agricole, peut-être en lien avec la MSA? Est-ce qu'il y a un suivi?
Ce ne sont pas nos compétences. Il faut que vous interrogiez la MSA. C'est la compétence de la MSA. Moi, je ne suis pas médecin de formation, je suis agronome, donc je n'ai aucune base solide de formation pour pouvoir vous répondre.
Et au niveau de la Chambre d'agriculture, il n'y a pas eu de...
C'est la MSA qui peut interroger. La MSA, c'est elle qui est compétente.
Jean-Philippe Delon, réaction.
Oui, moi, je voudrais réagir. Parce que dans notre parcours, nous avons décidé en famille, dès le début, de matérialiser cette affaire. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une véritable omerta au niveau du monde agricole, comme au niveau des médecins. Moi, j'ai commencé par m'accrocher très sérieusement avec notre médecin traitant, qui est un ami de 30 ans, mais on a eu une discussion très forte parce qu'il n'y a pas moyen d'aborder ce sujet. Et il a fallu qu'on médiatise pour qu'on arrive à avoir des discussions. Mais nous, notre famille, nous avons eu des difficultés immenses avec la mutualité sociale agricole. Il y a une difficulté à faire reconnaître les maladies professionnelles. Et vous, Frédéric, il a été reconnu en maladie professionnelle. Il était déjà décédé et il a fallu nous aller au tribunal. C'est-à-dire, nous avons dû prendre un cabinet d'avocat à Paris pour faire une procédure pour obtenir un résultat où la MSA a eu de grandes difficultés après à remplir son rôle, c'est-à-dire de payer à ma belle-fille les sommes qu'elle donnait. Il a fallu reprendre l'avocat pour les pousser à nous payer, et ils ont payé le dernier jour. Donc c'est pas pour l'argent, si vous voulez. Mais ma belle-fille était toute seule à 40 ans avec deux enfants de 5 ans, une exploitation qui était complètement en grande difficulté financière, et elle a trouvé en face d'elle personne pour l'aider. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument insupportable pour eux.
Il n'y a pas de représentant de la MSA autour de cette table, donc on ne peut pas poser des questions pour savoir s'il y a un suivi sanitaire au niveau de cet organisme. Alors, au niveau de l'ORS, est-ce que vous avez des données de la MSA? Est-ce que vous avez des contacts avec cet organisme qui vous pourriez, des données que vous pourriez nous présenter ou utiliser?
Sur ce sujet-là en particulier, non. Par ailleurs, on utilise des données de la MSA et des autres régimes de protection. Il existe un dispositif, à ma connaissance, je ne retrouve plus le nom de signalement de toutes les maladies en lien avec l'exposition aux pesticides. On est sur des expositions pas chroniques, hein, on est sur des accidents, hein, clairement, des expositions aiguës. Et au cours de la discussion, si le nom de ce dispositif me revient, je signalerai. Mais à ma connaissance, c'est très difficile d'avoir des chiffres issus de ce dispositif. Mais Ah, donc il existe, en tout cas, la MSA a mis en place quelque chose pour recueillir les épisodes aigus, les accidents liés à des expositions aux pesticides.
Alors, au-delà d'un rapport sur l'impact au niveau des agriculteurs, est-ce que, je me retourne vers le représentant du monde agricole, est-ce que vous avez connaissance d'actions de prévention peut-être de la MSA dans ce domaine? Je donne la parole à Guillaume Rio.
Oui, il y a des actions de prévention avec beaucoup de retard. Mais effectivement, il y a des consignes, des conseils liés à l'utilisation des produits phytosanitaires pour ceux qui en utilisent encore. Je ne vais pas tellement m'étaler sur le sujet, puisque moi, en agriculture biologique, je n'en utilise plus. Donc, je passe plutôt la parole à ceux qui ont fait le choix, en conscience, de continuer l'utilisation de ces produits et partager ces produits et la contamination de tous les milieux.
Franchement, on a de la prévention. Avec les groupes d'agriculteurs dont je faisais état, nos GBA, CETA et CIVAM, nous avons mis en place depuis très longtemps des sections de formation sur la protection, sur l'utilisation des protections individuelles dont la MSA fait la promotion. Nous avons fait souvent ce genre de réunions, aussi avec les assureurs type Groupama, hein, mais d'autres assurances, aussi avec l'ensemble de la distribution, que ce soit des coopératives ou des négociants. Il y a très très souvent des réunions sur des actions de prévention à titre individuel, c'est-à-dire la protection de l'utilisateur. Il y a aussi un document d'analyse de risque qui doit exister, qui a été développé aussi en partenariat avec la MSA pour les utilisateurs de main-d'œuvre, hein, tout ce qui est stagiaire, tout ce qui est employé. Donc oui, il y a des actions fortes qui sont menées.
Oui. J'ai quelque chose. Donc le dispositif en question, je crois, c'est Phytattitude, le dispositif de la MSA. Juste pour préciser, donc là, je pense que c'est le moment de parler du dispositif, en tout cas qui a été imaginé avec le plan Ecophyto 2018, et qui prévoit, alors là, moi, j'ai pas forcément d'avis sur la pertinence de la mesure, mais en tout cas qui prévoit que tous les utilisateurs professionnels doivent passer un certificat ou certifiton pour effectivement que le cadre d'usage et l'application des pesticides soit encadré, fasse l'objet d'une formation. Alors je pense qu'il y a des personnes sur la table qui connaissent mieux que moi ce dispositif, mais en tout cas c'est quelque chose qui est issu du plan Ecophyto 2018.
Oui, Ecophyto je connais très très bien parce que tous les agriculteurs de mon secteur suivraient bien. Ont cet agrément de certificat, ils ont tous reçu la formation, et ce depuis 4 ans pour les plus anciens. Donc tous les groupes de développement, même tous les agriculteurs, tous les distributeurs, que ce soit coopératives ou négociants, ont mis en place des sessions de formation certificat, elles existent encore, et les derniers qui passent aujourd'hui, c'est vraiment, je dirais, dans les 5% qui restent. Sinon, tout le monde a cet agrément.
Alors, restons sur le point.
Moi, je voudrais vous dire que le certifito, c'est un bon truc pour dispenser tous ceux qui vendent des produits et rendre l'agriculteur responsable par rapport aux autres, par rapport à la maladie. Ça, c'est un bon truc, ça, on ne le dit pas. Deuxième point, pour en avoir beaucoup parlé avec un médecin de la MSA, la protection qui est utilisée aujourd'hui, on est pas tellement sûr, il y a des risques de, on peut avoir des difficultés à l'utilisation, mais essayez de réfléchir. Voyez, en plein mois de juillet, un agriculteur encaparaçonné, sur un tracteur et en train de traiter. Une heure ça va, deux heures, on tient la matinée, on tient, à un moment donné c'est plus compliqué, et la vigilance se relâche. Donc, il faut absolument aller vers d'autres méthodes, peut-être des produits non toxiques, et peut-être aussi voir les problèmes de la pulvérisation. Il y a quand même des choses à regarder de ce côté-là, mais de grâce, les certificats, moi je trouve que c'est un attrape-couillon, et que c'est le viticulteur qui va être responsable par rapport aux dégâts qui vont être faits autour de lui.
Probablement, je pense qu'il faut quand même rappeler quelques chiffres. La France, ou seule l'Europe, est le premier utilisateur de produits phytosanitaires. Donc ça démontre quand même que, monsieur Guillaume nous a rappelé, le développement agricole tel qu'il s'est fait, nous, il a fallu, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, nourrir nos populations en quantité. En revanche, on a oublié, à partir de 72-73, nous étions autosuffisants en alimentation dans notre pays. On a oublié de réorienter notre agriculture vers des segments de qualité. Et aujourd'hui, on a les dégâts 30 ans après, parce que c'est toujours
des pathologies à long terme. Quand on parle de cancer, un cancer, il met 30 ans à se mettre en place. Ce n'est pas du jour au lendemain. Donc, on a fait le choix de continuer de pulvériser. A contrario, on a fait le choix aussi, je vous disais qu'on est premier utilisateur de phytosanitaires en Europe, mais on est 14e en termes de développement de l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, je peux quand même vous rappeler à l'Assemblée et à nos auditeurs, c'est un mode de production certifié qui exclut tout produit phytosanitaire, tout pesticide de synthèse, donc les herbicides, les fongicides, etc. Voilà. Donc c'est le seul mode de production qui garantit le choix de la non-utilisation de ces produits. Pour autant, dans notre région, nous ne sommes qu'à 2,5% de la surface. En France, 4,5% de la surface. 14e au plan européen, il y a d'autres pays, les pays de l'Est de l'Europe, du Nord de l'Europe, qui ont des préoccupations environnementalistes culturelles en leur sein, dans leur population, qui sont déjà à plus de 20%. L'Autriche est à 24%. Voilà. Donc, c'est bien des choix de développement agricole qui ont été faits depuis de nombreuses années et qui ne sont pas du tout en adéquation aujourd'hui avec le désir de nos concitoyens qui payent. Il faut quand même rappeler que la PAC, c'est 9,5 milliards d'euros dans notre pays, c'est 7,7 milliards d'aides directes pour nourrir nos populations à l'origine. C'est ça le contrat. C'est un contrat social que l'agriculture a avec l'ensemble de la société, l'ensemble de nos consommateurs. D'autres chiffres qui sont quand même intéressants aujourd'hui, c'est 500 000 paysans en France. On est 30 000 en Poitou-Charentes. Selon les régions, nous représentons de 0,5 à 3% de la population agricole. Comment peut-on continuer via ce contrat social, alors que nous touchons des aides, alors que nos concitoyens ont des coûts de dépollution qui sont absolument astronomiques pour enlever, dépolluer un kilo de matière active en moyenne de pesticides dans l'eau, cela coûte à nos concitoyens, et à nous-mêmes, utilisateurs d'eau, c'est 60 000 euros en moyenne pour enlever un kilo de molécules. Quand vous connaissez les tonnages qui sont répandus dans notre région et dans notre pays, ça pose de réels problèmes, encore une fois, de l'adéquation entre notre schéma de développement agricole, national, régional, et le souhait de nos concitoyens qui veulent aujourd'hui un schéma alimentaire nutritionnel qui soit absolument parfait et légitime, et ils payent pour ça, rappelons-le encore une fois, et c'est aussi il y a quand même la meilleure façon demain de préserver la santé publique et les générations futures. Je ne vois pas comment l'agriculture de demain, d'aujourd'hui et de demain, peut s'exonérer de ces considérations.
Si la France est le premier pays producteur, utilisateur de pesticides, c'est que c'est le plus grand pays. Il a 29 millions d'hectares de SAU. Le Danemark, il a 2,5 millions d'hectares de SAU. Donc ça, c'est mathématique et les chiffres sont extrêmement têtus à ce niveau-là. Au niveau de la consommation, nous sommes entre 4,5 et 5 kg de matière active par hectare. Les Pays-Bas sont à 17,5 kg. Ramenons les choses tout égales par ailleurs.
Oui, vous trouvez toujours de plus mauvais élèves. Le but, ce n'est pas de jouer d'améliorer toutes ces considérations.
Je ne parle pas du plus mauvais élèves. Je parle aussi du Danemark qui a fait énormément d'efforts à ce niveau-là. D'ailleurs, dans une situation autosuffisance en alimentation, ils sont aujourd'hui importateurs. Au Danemark, ils utilisent 2,2 kg de matière active par hectare. Donc, ils en utilisent aussi. Ils ont baissé leur utilisation parce qu'ils ont transformé une bonne partie de leur surface céréalière en élevage, notamment en usine à cochons. Voilà.
On va sur les questions économiques en deuxième partie. Restons sur l'impact sanitaire avec des réponses peut-être plus brèves pour avoir remis les questions. Alors, une question à Julien Giraud. Vous avez évoqué lors de la première émission des statistiques sur les maladies en Poitou-Charentes qui étaient liées aux pesticides. Donc, alors, pour ne pas faire de raccourcis, c'est des maladies où on sait qu'il y a un lien avéré, mais ça ne veut pas dire que toutes les personnes atteintes par ces maladies ont été exposées aux pesticides. Est-ce que l'on a des statistiques plus précises sur les populations d'usagers, donc des agriculteurs, qui ont contracté les maladies que vous avez citées dans cette première émission?
Non, alors en fait, j'ai pas été clair du tout. Ce que je disais, c'est que justement, on arrivait à estimer un nombre de cas de pathologie globalement, mais qu'on était incapable de démêler parmi ceux-ci la part qui pouvait être attribuable à une exposition professionnelle ou non, domestique, chronique, voire même aiguë aux pesticides. On n'est pas capable de le faire tout simplement parce qu'on n'est pas capable de retracer pour chaque individu son exposition. Donc non, on n'est pas capable de dire ça.
Alors, une question sur la notion des doses toxiques minimales.
elle serait actuellement remise en cause. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Est-ce que les niveaux de dose risquent de bouger?
Ça risque de bouger. Disons que la réglementation européenne, à ma connaissance, le raisonnement, on ne peut pas le faire globalement comme ça. C'est vraiment par produit que les doses sont réajustées en fonction des niveaux de connaissances qu'on peut en avoir. Mais non, là, j'ai pas d'informations très précises sur ce
déjà différent.
D'accord. Néanmoins, on est sûr aujourd'hui que c'est pas la dose qui fait la toxicité, notamment pour les perturbateurs endocriniens et les maladies neurodégénératives. Donc ça, c'est clair, on le sait, et il faudrait qu'on puisse travailler à partir de ça. Alors qu'aujourd'hui, ceux qui sont en charge de ces problèmes l'ignorent complètement, ou presque.
Alors, est-ce qu'il y a des produits alimentaires qui seraient plus exposés que d'autres sur la présence du pesticide, notamment dans les fruits, le vin, ces produits-là sont...
Les fruits et légumes sont ceux qui sont les plus concernés par la présence de pesticides, quelle que soit la nature des prélèvements qu'on a pu faire, c'est toujours les fruits et légumes qui ont été retrouvés. Dans l'étude dont je parlais tout à l'heure, l'étude EAT, l'étude d'alimentation totale de l'ANSES, elle concluait que majorité de fois qu'il y avait aucun risque qui avait été décelé dans leur prélèvement. Le seul risque était sur des cerises et pour un gros consommateur de fruits. Mais là encore, c'était une vision réglementaire des choses, c'est-à-dire on en revient aussi à la dose et aux effets dont vous évoquiez tout à l'heure. D'un point de vue réglementaire, il n'y avait pas de sur-risque.
Une question du vocabulaire, la différence entre cancérigène et cancérogène, c'est la même chose. Et sur les perturbateurs endocriniens, est-ce qu'on a plus de données
Là, il y a un rapport de l'OMS de 2013 qui fait un état vraiment assez précis sur les perturbateurs endocriniens inclus pour partie des pesticides. Les pesticides font partie des perturbateurs endocriniens. Il y a un rapport de l'OMS que je vous invite à consulter. Il y a la synthèse en français entre mon rapport et en anglais, mais qui là aussi indique très clairement les liens entre un certain nombre de cancers, le cancer de la prostate notamment, et d'autres avec les perturbateurs endocriniens sur des choses qui commencent à être bien documentées. Oui.
Alors, je propose maintenant de passer aux questions plus agronomiques. Donc, quant à l'usage de ces produits phyto et leur efficacité au niveau des rendements. Alors, Serge Grimaud, lors de la première émission, vous aviez évoqué une baisse de l'utilisation de ces produits entre 1985 et 2014. Alors, comment expliquer cette baisse? Est-ce qu'ils sont plus efficaces? Est-ce qu'ils seraient plus concentrés en produits actifs, quoi?
Non, ils ne sont pas plus concentrés en produits actifs, ils sont beaucoup moins concentrés. C'est qu'à l'époque, lorsque nous utilisions les premiers herbicides, il fallait des kilos de matière active par hectare. Aujourd'hui, nous en sommes à des grammes de matière active par hectare ou des dizaines de grammes. Donc, ce n'est pas en termes de concentration. Si vous prenez par exemple l'atrazine qui est connue, elle était concentrée à 500 grammes de matière active par litre ou par kilo. Aujourd'hui, si vous prenez un fongicide, il est concentré entre 50 et 60 ou 100 grammes de matière active par litre ou par kilo. Ce n'est pas une question de concentration. C'est qu'on utilise,
s'il vous plaît,
on utilise des molécules en quantité moins importante par hectare. C'est tout. Ce ne sont pas les mêmes.
Alors,
ce ne sont pas les mêmes.
Une petite rectification, effectivement, en termes de grammage, on a baissé en termes de grammage. Pour autant, on était sur des molécules qui étaient souvent des molécules de contact. Aujourd'hui, on est passé sur un type de molécule moderne, enfin dite moderne, qui sont des molécules systémiques, c'est-à-dire qu'ils ne se dégradent pas dans le milieu. Alors évidemment, et c'est valable pour les insecticides, aussi bien en grande culture qu'en élevage, elles sont absolument stables et le milieu n'arrive pas à être dégradé. Les micro-organismes ont beaucoup de difficultés, et on le sait bien d'ailleurs, avec tous les constats qu'on peut faire sur la biodiversité, pas seulement sur la santé, mais sur l'ensemble des organismes qui nous entourent, pour lesquels ça pose de graves difficultés.
C'est absolument faux.
Attendez,
laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Les fongicides que vous parliez étaient effectivement des produits de contact, tels que le cuivre, un produit qui est extrêmement dangereux parce que c'est du vitriol. Le sulfate de cuivre, c'est très dangereux. On en met des quantités importantes à l'hectare. On en mettait des quantités importantes, en viticulture notamment. Le soufre, c'est des produits de contact. Le chlorothalonil, par contre, les herbicides, mis à part quelques colorants entrés qui étaient de contact, les herbicides ont toujours été des systémiques.
Le 2,4-B, qui est le premier herbicide qui a été inventé, est un systémique.
Monsieur Rivard, vous êtes le représentant d'une agriculture qui est dans le déni.
Non, monsieur, je conseille aux agriculteurs qui sont venus dans le déni. Je conseille aussi les agriculteurs qui sont en bio. Donc, je ne vois pas pourquoi je ferai la promotion de plus de l'un ou de l'autre. D'ailleurs, après-demain, je vais récolter un essai de variété de maïs chez un agriculteur bio. Donc, je ne vois pas de quoi vous m'accusez. Et en plus, vous ne connaissez pas mon travail.
Alors, monsieur, vous n'accusez rien, d'ailleurs, vous êtes salarié et représentant, voilà. Ce que je remets en cause, c'est pas votre personne, évidemment, c'est le propos qui est véhiculé. On peut, dans notre pays, rester dans ce déni dont je vous parlais. En revanche, on a quand même, il faut l'entendre, nos populations qui nous interpellent, la science, l'INSERM nous interpelle. Et c'est pas des tendinettes du coude. On nous parle de cancer, on nous parle de maladies neurodégénératives, on nous parle de subfertilité et de problèmes de développement chez l'enfant. C'est quand même des pathologies majeures. Donc, il faut absolument que nous ayons notre vue sur notre développement agricole et qu'il y ait des solutions qui existent, que nous pourrions mener en partenariat, nous le faisons déjà. L'agriculture biologique en région peut tout ça rendre, travailler en lien étroit avec le réseau des champs d'agriculture, et ça ne pose pas de problème. Mais il faut absolument que nous comprenions tous ensemble qu'il y a des résultats concrets, des factuels, des choses qui sont très faciles à appréhender et qu'il faut changer notre paradigme, comme on dit.
Moi, je suis d'accord que tout ce que vous dites, je sais une chose, c'est que moi, dans les années 60, j'ai eu faim, maintenant je n'ai plus faim. Je sais aussi que l'agriculture et les agriculteurs que je conseille, qu'ils soient en bio ou en classique, moi, je raisonne systématiquement l'utilisation, le besoin, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ne fait pas. Ce n'est pas de gaieté de cœur que l'on va faire une intervention sur une culture, c'est qu'on le fait parce qu'il y a nécessité. Mais si tout le monde raisonnait et avait notre cheminement que nous avons eu dans nos groupes de développement, eh bien nous aurions de l'agriculture raisonnée partout. Et le problème, il est là, c'est qu'il faut savoir raisonner. Quand vous avez 1000 bulles pain par mètre carré dans du blé, vous n'obtiendrez pas de blé. Il faut se poser la question, pourquoi il y a 1000 bulles pain par mètre carré? Mais moi, quand je suis face à une situation où il y a 1000 bulles pain par mètre carré, il faut bien que je trouve une solution pour l'agriculteur.
Eh bien, la solution, assurément, elle est présentée, vous le savez bien, elle n'est pas curée. Il y a des solutions.
Excusez-moi, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Comme je conseille un agriculteur en bio et des agriculteurs, il y a 2 ans où il avait fait un colza et puis il m'a dit qu'est-ce que tu veux que je fasse ce colza? Et je dis la solution, maintenant c'est de passer la charrue. Il n'y a pas de solution en bio pour pouvoir la désherber. Eh bien oui, nous sommes des fois au pied du mur ou face à un mur et puis il n'y a pas de solution. Il a beau avoir des méthodes préventives, ça fait 15 ans qu'il fait du bio, le gars. Il connaît son boulot. Mais à des moments, eh bien nous sommes devant un mur qui est infranchissable. Eh bien là, il faut essayer de trouver une solution. Ou vous cassez la culture et puis vous en payez les pots cassés, ou vous êtes dans l'autre système agricole, c'est-à-dire le conventionnel, et puis vous essayez de trouver l'herbicide le mieux adapté à la dose la plus faible possible. Moi, j'ai pas d'autre alternative.
Ouais, moi, je vais réagir un peu par rapport à tout ce qu'il a dit un peu en rac. C'est un peu l'harmonie sur la fin dont a souffert monsieur. Moi, personnellement, j'appartiens à cette génération qui est née dans les années 60 et qui a été élevée au bisphénol A dans les biberons et aux fruits couverts d'herbicides. Il se trouve que dans les 12 mois qui viennent, moi, j'ai 3 personnes de mon environnement. Une faisait partie des populations à risque et qui sont mortes d'un cancer du côlon. Moi, j'ai posé la question à mes parents. Est-ce que, quand vous aviez mon âge, il y avait autant de gens qui mouraient de cancer autour de vous? Alors, statistiquement, ça n'a aucune valeur, mais quand on veut faire l'harmonie, on peut faire vraiment sur plein de choses. Et moi, j'avoue que ça m'interpelle ce genre de choses. Après, quand j'entends parler d'agriculture raisonnée, qui en fait est une espèce de tromperie fondamentale qui n'est juste que correspond à une réglementation pour pouvoir obtenir et rentrer dans le système et obtenir des subventions, moi, ça me fait mal, ça n'a rien à voir avec le terme de raisonner. On confond toujours raisonner et intégrer, qui serait effectivement quelque chose qui va vers une voie un petit peu plus vertueuse, où on essaye d'adapter en fonction des conditions dans lesquelles on est. Et après, il y a le choix politique. Moi, je n'incline pas du tout les agriculteurs, mais si on avait investi autant d'argent dans la recherche sur l'agriculture bio et vers l'évolution des pratiques agronomiques, que l'on en a investi dans la recherche de nouveaux produits qu'on utilise, qui sont de plus en plus nocifs, que ce soit pour l'environnement, pour les utilisateurs ou pour les poissons, comme les perturbateurs endocriniens, peut-être qu'on n'en serait pas à se poser certaines questions encore actuellement.
S'il vous plaît, je vais simplement vous donner une statistique qui n'a aucune valeur. J'ai un grand-père qui était né en 1889, qui était viticulteur. Il a fait la guerre de 14, il est parti en 1909, il est revenu en 1919. Il est mort à 87 ans. Mon père était né en 1922, il a passé 2 ans et demi en Allemagne, et il est revenu, il faisait 46 kilos, il a vécu jusqu'à 79 ans parce qu'il était gros fumeur. Ma fille s'est née en 1970, il est mort à 41 ans. Vous parliez du cuivre tout à l'heure. Est-ce que vous avez vu des viticulteurs meurent au pied de leur pulvérisateur parce qu'ils ont utilisé les sulfates de cuivre? C'est quelque chose qui est insupportable.
Le problème autour de cette table ronde, c'est qu'en fait, on est sur des considérations techniques. Or, ce sujet, vous l'avez tous compris, il est très complexe. Et ce n'est pas des considérations techniques qu'il faut mettre en place. C'est des choix politiques, c'est des choix d'orientation de nos sociétés modernes. Et nous avons la chance, dans notre région, en région Poitou-Charentes, que, épaulés par les collectivités territoriales que sont le conseil régional et les conseils généraux, par exemple, mais aussi tout le tissu associatif dont les environnementalistes font partie et certains groupes socio-professionnels, trouvent des réponses dans notre région. Et la croissance verte est une vraie réponse. Il faut que nous réorientons l'ensemble de nos productions, et pas seulement agricoles. C'est la transition énergétique, c'est la transition écologique, et nous n'aurons pas d'autre choix pour préserver nos populations, les générations futures, que d'aller vers ces choix, ces considérations. Donc ce sont bien des choix politiques et pas des choix techniques.
Enfin, des choix politiques, certes, mais qui doivent s'appuyer sur également la connaissance technique pour être opérationnel. Donc une question à Serge Guénaud qui émane du public. L'utilisation de pesticides provoque obligatoirement de résistance, rendant les produits moins efficaces. Qu'avez-vous à dire sur ce type
de... Pas obligatoirement. Certaines plantes ou certaines maladies ont développé des résistances, mais ce n'est pas obligatoire.
Est-ce que, quand c'est le cas, c'est faisant une augmentation des doses?
Non, absolument pas. Parce que lorsque vous avez la résistance, c'est on-off. C'est-à-dire, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Donc là, il faut changer un autre produit, ou il faut allonger les rotations, il faut faire autre chose, mais ce n'est pas en augmentant les produits que vous réglerez le problème.
Une autre question, pourquoi un couvert végétal pour lutter contre les mauvaises herbes n'est pas mis en place lors du semis des cultures? Alors, c'est peut-être mis en place pour le système de bio.
Alors, le couvert végétal, vous avez deux types de couverts végétaux. Vous avez le couvert végétal en interculture, qui est plutôt fait pour empêcher le relargage des nitrates dans les nappes. Et vous avez, pour une seule culture, c'est le colza, des couverts végétaux qu'on appelle des plantes associées. Mais ces plantes associées nécessitent par la suite l'utilisation d'un autre herbicide parce que ça ne gèle pas suffisamment pour le détruire. Donc, toute médaille à son revers, le remède peut être aussi pire que le mal. Mais je voulais revenir à ce que disait madame. Effectivement, l'État français et les instances françaises de l'agriculture ont une part de responsabilité au travers de l'INRA de n'avoir pas su continuer la recherche de variétés tolérantes ou beaucoup plus résistantes aux maladies, ça c'est clair. Et tout ce qui est des produits phytosanitaires, ce sont des firmes privées qui ont fait le développement. Donc derrière, il y avait un travail mercantile, il y avait de la vente à faire. Alors que pour la recherche d'espèces ou de variétés tolérantes, c'est l'INRA qui le faisait dans les années 60, qui a arrêté pratiquement de le faire ou qui a fortement diminué ses programmes de recherche dans les années 70 et 80.
Beaucoup de moyens au niveau de l'agriculture biologique, peut-être des méthodes alternatives à le fondement technique de l'agriculture biologique, ce sont les schémas préventifs. C'est pas curatif. On n'a pas de parapluie technique, donc tout est imaginé dans ce qu'on appelle la rotation, la succession culturelle, où il faut que nous allongions. Typiquement, en zone céréalière, en Poitou-Charentes, nous sommes sur des rotations colza blé orge en système artificiel. Certains disent conventionnel, moi j'aime mieux dire artificiel. En agriculture biologique, on est obligé de ramener d'abord plus de familles, notamment des protéagineux, pour pouvoir fixer l'azote atmosphérique et le restituer aux céréales qui viennent après dans la rotation. Voilà. C'est le préventif, alors on ne pourrait pas rentrer dans tous les détails aujourd'hui, il y a l'étape de semis, il y a un tas de choses à mettre en œuvre, c'est pas très intéressant, mais voilà, on s'inscrit dans des schémas agronomiques préventifs plutôt que curatifs, et nous n'avons pas d'autre solution. C'est la méthodologie la plus vertueuse.
Une question sur l'épandage. L'épandage aérien est-il interdit?
Oui.
Est-il pratiqué?
Non. Sauf dérogation, si les populations sont soumises à danger, chikungunya, chenille processionnaire du pain, il y a uniquement ces choses-là. C'est récent.
C'est quand même incroyable de voir qu'en France, il y a une réglementation très récente qui va interdire à tous les particuliers, à toutes les collectivités locales, d'utiliser les pesticides. Je crois que 2020 sera la date butoir, c'est dans pas longtemps. Mais sur le monde agricole, vous n'avez rien arrivé comme réglementation avec des objectifs de descente, je veux dire drastique, des consommations. Alors, c'est toujours le petit, même pas 10% de consommation personnelle et municipale qui, lui, va être touché. Mais très bien, très bien. Et puis les 90% et plus producteurs, rien. Bon, alors ça c'est quand même assez incroyable. Et je voudrais dire aussi les devoirs d'espoir, on va pas partir en pleurant d'ici. Charente Nature a organisé ces jours derniers une soirée très réussie avec le monde médical, le monde aussi des consommateurs, des associations environnementales, et et les médecins s'engagent. Nous sommes plus de 1000 médecins en France, dont bon nombre en Limousin et déjà une petite vingtaine en Charente, qui s'engagent sur le sujet dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire établir un lien maintenant entre bourre, santé et pesticides, et puis s'engager aussi pour travailler sur le sujet pour réduire la catastrophe. Donc ça, c'est très encourageant. Ce qui est encourageant aussi, c'est qu'à Poitiers, il y a un universitaire qui s'appelle Dan Brick, qui est en train de faire une étude sur le lien entre pesticides et viticulteurs à partir de l'analyse de chevaux. Et puis ce qui est encourageant aussi, c'est de savoir que dans le plan national santé environnement numéro 3, qui est en phase de discussion, eh bien, il y a une très large part accordée au travail de recherche sur les pesticides, qui est encourageante.
Trois petites questions. La plupart des questions s'adressent à M. Grimaud, hein, si j'ai plus rien. Concernant les relations avec les fabricants, vous l'avez évoqué lors de votre intervention, vous avez dit qu'elles étaient parfois tendues et difficiles. Vous avez, si j'ai bien compris, de vous-même diminué les doses prescrites par les fabricants, et ça a été donc le résultat de tensions. Comment est-il aujourd'hui au niveau de, est-ce que ces fabricants acceptent cette diminution des doses? Est-ce que ça a un impact sur le prix de ces produits? Est-ce qu'ils se sont rattrapés sur le prix des produits vendus?
Alors, ils acceptent la diminution de ces doses, bon gré, mal gré. Il n'y a pas eu d'impact sur le prix des produits parce que comme il y a de l'obsolescence sur les anciens produits, les nouveaux qui arrivent sont toujours plus chers. Le prix d'un produit n'est pas lié à son coût de fabrication. Il est en relation avec l'espoir de gain de rendement qu'il va y avoir derrière. C'est le service qu'il apporte. Voilà comment il est fait, le prix du produit. Alors, il y a de la concurrence entre eux, donc il y a une certaine tension des prix vers le bas.
Alors, une question.
Il va y avoir une deuxième partie de la question.
Hein. Non, c'était
ça. Et les relations sont relativement, sont souvent de fois assez tendues, parce que c'est difficile pour eux d'accepter d'emblée que nous passions leur dose de 20 ou 30%. Et ça, ça leur fait du mal.
Alors, une question peut-être plus politique, justement sur la relation avec ces fabricants. On sait qu'ils ont des moyens financiers extrêmement importants et qu'ils pratiquent également un lobbying assez fort. Est-ce que le débat, certes entre agriculteurs, mais ne doit-il pas se faire aussi au niveau de la relation entre les politiques, donc ceux qui vont donner les autorisations, et ces fabricants qui établissent une pression à la fois sur le monde agricole et sur le monde politique?
Je vous rassure, moi je suis victime d'aucun oubli par rapport à... Il est absolument clair qu'on a, enfin, il y a un problème de dysfonctionnement démocratique par rapport à ça. Je pense qu'il y a plusieurs... il y a eu beaucoup de documentaires composés, portés là-dessus qui montrent bien quels sont les appuis et les pressions qui peuvent s'exercer à différents niveaux. Il y a la pression des producteurs de molécules, mais aussi la pression des agriculteurs eux-mêmes, hein, de certains lobbies agricoles, moi je pense que c'est plus une crainte de changer de modèle qui fait réagir les agriculteurs et le fait de ne pas savoir comment s'en sortir que réellement une volonté de rester accroché à ce modèle-là. Après, moi je pense que politiquement, quand je parlais tout à l'heure de financement de la recherche, je disais que c'était les industriels qui finançaient les recherches sur leurs molécules, elles sont quand même testées à l'INRA. Enfin, à côté de ça, moi j'ai travaillé dans ce milieu-là. Il y a des tests quand même qui sont financés, notamment sur les efficacités. Et l'INRA et les structures françaises ont été aussi financées par ces industriels-là. Ça, c'est un choix politique. Le désengagement politique, et là, c'est quelque chose sur lequel on peut tous intervenir aussi, le fait de se désengager du soutien à la recherche, c'est quand même une erreur qui a été faite dans les années 70. Vous parliez des sélections, et ça va bien au-delà des sélections, y compris sur des produits alternatifs qui pouvaient être bio.
Regarde mon vidéo, ce sera le mot de la fin.
Eh bien écoutez, politiquement, moi j'ai participé l'année dernière à un rapport du Conseil environnemental, social et économique, enfin Conseil économique, social et environnemental, pardon, qui propose, la rapporteure Florence Denis-Pasquier nous proposait l'année dernière deux voies alternatives pour le changement du modèle agricole, qui sont l'agroécologie, donc c'est-à-dire le développement de l'agriculture biologique dans le pays et l'agroforesterie. Et puis la deuxième solution, malheureusement, puisque les choses n'avancent pas suffisamment vite, eh bien ce sont les redevances. Ce sont les redevances sur les engrais et les produits phytosanitaires. Voilà comment l'État, qui seul, le législateur, a seul pouvoir sur tous ces sujets-là, parce que nous sommes en présence de forces économiques qui sont tellement puissantes. Les pressions que sur nos fermes nous subissons au quotidien sont absolument terribles dans la profession agricole. Face à ce pouvoir économique, la seule force, c'est l'État. C'est le législateur et les propositions que nous avons eues au CESE l'année dernière.
Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat et de nous donner son propos à ce sujet.